commence avec les pourparlers israélo-palestiniens en Égypte pour ramener le calme. Israël, Palestiniens, Américains et Jordaniens se sont rencontrés à Sharm el-Sheikh. Côté palestinien, c'est l'OLP, mais pas le Hamas. Et Moussa Abou Marzouk, au cadre du Hamas à Gaza, déclare à la presse arabe « Le mouvement islamiste a fait le choix de l'escalade de la résistance contre l'occupation et s'oppose au sommet de Sharm el-Sheikh, comme tous les sommets qui visent à vouloir calmer la situation. Le FPLP et le djihad islamique viennent en soutien au Hamas s'abstenir. » Le djihad islamique et sa branche armée Brigade Al-Quds publient également un communiqué dans la presse arabe pour annoncer la mort d'un membre de l'armée Al-Quds en Syrie. Selon le communiqué palestinien, la responsabilité de cet assassinat incombe, je cite, aux agents de l'ennemi sioniste. Comment sortir de la crise politique libanaise? C'est toute l'interrogation du quotidien libanais et de toute la presse libanaise, mais notamment l'Orient Le Jour. Samir Jaja, chef des forces libres libanaises, va s'associer à une journée de prière prévue le 5 avril par le chef de l'église maronite. Le chef de l'église maronite fait comme ça une journée de retraite pour les 64 députés chrétiens qui sont attendus, le Liban étant sans président depuis le 31 octobre. 11 réunions électorales se sont déroulées sans aucun aboutissement. Le bloc du renouveau parlementaire, qui réunit députés musulmans et chrétiens, selon Hadid Abdelmarsi, se joindra à la journée de prière du 5 avril. Pour l'instant, il y a un tandem côté parti Amal chiite et Hezbollah, c'est-à-dire les deux partis pro-iraniens, qui se portent candidats à la présidence de la République, puis Joseph Aoun, commandant en chef de l'armée de l'armée libanaise, qui est également candidat à ce poste, sachant que ce poste est réservé depuis toujours à un chrétien maronite. Sans dialogue, il n'y aura pas de paralysie, il n'y aura pas, excusez-moi, de sortie de la paralysie du Liban, déclare Nabi Berri au quotidien libanais Al-Liwa. Nabi Berri est le chef du Parlement libanais. Il appelle le courant patriotique libre CPL, c'est-à-dire les pro-aounistes et les forces libres, de débloquer la vie politique. Pour Nabi Berri, c'est les chrétiens du CPL de Aoun et les forces libres qui doivent trouver un accord. Je rappelle que les forces libres sont celles qui sont dirigées par Samir Jaja. Pour l'instant, un seul candidat officiel s'est prononcé, c'est Michel Moawad du Bloc Renouveau, sachant que du côté pro-iranien, on sait qu'ils vont se présenter, mais il n'y a pas de candidature officielle de déposer. Michel Moawad, lui, est candidat officiellement. Il y a un autre candidat chrétien qui est soutenu par le tandem, justement, Amal chiite et Hezbollah, c'est Slimane Franger. Mais il est proche du régime syrien et les autres partis chrétiens ne veulent pas lui apporter leur soutien. Berri a fixé la prochaine séance parlementaire au 27 mars, parce qu'au Liban, il n'y a pas de calendrier comme ça parlementaire, on fixe au coup par coup. Le gouverneur de la Banque du Liban, qui est dirigé par Riyad Salamé, voit ses soutiens politiques s'effriter parce que le Liban est non seulement face à une crise politique, mais également à une crise économique. Il est actuellement en train de répondre aux questions des enquêteurs européens, sachant que la livre libanaise est passée à 120 000 lires libanaises pour un dollar, sachant que 100 000 lires libanaises sont équivalents à 6,22 euros. Le journal Atalayar nous explique qu'en fait 90% de la lire libanaise est tombée et que 80% de la population libanaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Et puis, on parle de l'accord du Yémen, celui dont je vous parlais la semaine dernière, suite aux accords qui ont été signés avec l'Arabie saoudite. Il va y avoir un échange de prisonniers entre les rebelles houthis pro-iraniens et le gouvernement yéménite. C'est le journal Al-Masira qui donne le chiffre de 880 prisonniers qui vont être libérés, 706 côté houthis, 706 outils côté gouvernemental et 181 personnes détenues par les outils qui sont essentiellement des Saoudiens et des Soudanais. Cet échange est prévu dans 3 semaines et c'est les conséquences, effectivement, 1, de négociations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, mais également des négociations qui se déroulent en ce moment à Genève sous auspice de l'ONU. Al Jazeera et Achar Kelwazad consacrent un grand dossier à l'historique du conflit iranien qui a débuté le 19 mars 2003 par les premiers bombardements américains sur l'Irak. Les différends venaient du fait qu'il y avait une suspicion du côté de Bagdad de détenir l'arme nucléaire. Et puis on continue avec l'hebdomadaire égyptien Al-Aram Hebdo qui revient sur le sommet de Sharm el-Sheikh avec de nouvelles promesses d'apaiser les tensions, promesses de mettre fin à la violence aussi bien du côté israélien que du côté palestinien, et date a été prise selon l'hebdomadaire égyptien pour se retrouver en avril. Autre titre, en Cisjordanie, une tension au quotidien. Autre titre encore, en Cisjordanie, les six pays appellent à la fin de la colonisation. Pas de désescalade en vue. Le conflit israélo-palestinien semble aspirer dans une nouvelle spirale inextricable de violence depuis l'entrée en fonction du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, écrit la politologue égyptienne Mona Seleiman. Elle craint la période de Ramadan. Les violences, écrit-elle, risquent d'augmenter. Les Israéliens, comme chaque année, empêchent d'aller prier à la mosquée Al-Aqsa. Les Israéliens provoquent les Palestiniens. Les jeunes Palestiniens tombent dans le piège et commettent des actes de violence. C'est ce que on lit sous sa plume. La politologue a également d'autres explications. Netanyahou est dans une situation critique, écrit-elle, par les manifestations contre les réformes judiciaires, manifestants israéliens. Ces manifestants, dit-elle, veulent pousser Netanyahou à la démission, qui fait monter les enchères sur les risques de violence. Ni les États-Unis ni la communauté internationale, déplore le journal, n'agissent pour mettre des solutions durables en place. Et puis dans ce journal, on va finir avec, je dirais, un peu d'espoir et de lyrisme. Ce sont les psaumes de David ressuscités, titre Al-Aram, un manuscrit du 5e siècle, restauré par les spécialistes égyptiens des deux musées coptes et islamiques, sous la direction de Hamid Abdelmonem, chef de la restauration du musée islamique. La découverte date de 1984 dans la tombe d'un enfant de la Moyenne Égypte. 151 psaumes en langue copte sur 498 parchemins, deux couvertures de bois. Le manuscrit a été probablement déposé pour bénir l'enfant. Eh bien, c'est sur les psaumes de David que je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Salam, shalom.